Bien, alors. Un chat difficile, triste. Priori, on est. On est en grande partie en galoute à cause de ça. Ce qu'on va voir dans cette paracha, enfin, ce qu'on va voir, ce qu'on voit dans cette paracha. Shlach lecha, donc, Vaydaber Hashem el Moshe, les morts. Shlach lecha anashim. Littéralement, ça veut dire envoie lecha pour toi des gens, anashim, veyaturu, et qui les explorent, et Eretz Kenan, le pays de Kenan. Asher ani noten livnei Israël, que je donne aux bnei Israël. Et ces explorateurs, ces gens qui vont explorer, ce sera ish echad lemate avotav, tishlachu. On enverra un homme par tribu, kol nasi vahem. On enverra qui dans la tribu? On enverra le nasi, on enverra le prince de la tribu. Alors effectivement, c'est l'ordre d'Hachem. Vaishlach otam Moshe mimidbar Paran. Alors Moshe Rabbeinu les a envoyés, le point de départ c'est le désert de Paran. Alpi Hachem, sur l'ordre d'Hachem. Kulam Anashim, tous ces gens-là sont des Raché et Bnei Israël Hema. Ils sont tous des chefs des Bnei Israël. Velesh Motam, et voilà la liste de leurs noms, et on énumère leurs noms. Et ils ont tous des très beaux noms, des noms. Il y a parmi eux des gens qu'on connaît, il y a le Maté Yehuda, il y a Kalev, Ben Yefouné, encore le mari de Myriam. Il y a Hoshéa Ben Noun, qui s'appellera plus tard, oui, enfin, il va tout de suite s'appeler Yoshua. Enfin, c'est les très connus. Elé Shmot, je reprends, Shmot Anashim, Asher Shalach Moshe, la tour est à Aretz. Ceci étaient les noms des hommes que Moshe Rabbeinu a envoyés pour explorer la terre, le pays. Vaikra Moshe le Hoshéa Ben Noun Yoshua. Et Moshe Rabbeinu a fait un changement de nom. Il a changé le nom de Hoshéa Ben Noun en Yoshua. Il a mis un Yud devant, donc ça fait que Yoshua a les trois premières lettres du Shem Hashem dans son nom. Mais il y a donc, même au départ, on peut lire qu'il y a un appel à l'aide, au sauvetage, au salut par Hashem. Encore une fois, donc ça c'est les gens que Moshe a envoyés. Puis le verset il revient, il dit « Vaishlach otam Moshe la tour et Eretz Kenan » Moshe les a envoyés explorer le pays de Kenan. On vient de le dire, n'est-ce pas? Vayomer alehem, et il leur a dit, Alouze va Negev, va litem et hahar. Il leur a dit, vous allez entrer dans le pays par le Negev, va litem et hahar, et puis vous allez continuer, vous allez. On verra ce que ça peut vouloir dire, jusqu'à la montagne. Uriitem, et vous regarderez, et haaretz, le pays, mahi. Alors, a priori, quand on envoie des gens pour explorer, il faut bien regarder le pays. Je veux dire, qu'est-ce qu'il leur dit là de spécial? On envoie des explorateurs, c'est a priori pour voir le pays, c'est pas pour faire du tourisme. Alors c'est présenté, on dit Mahi, Vous regardez donc le pays, la qualité de la terre, si on peut parler comme ça. Ve'etaham ayoshev alea. Vous regarderez le peuple qui réside sur cette terre. Et chazaku erafe. Est-ce qu'il est fort ou faible? Ameatu imrav. Est-ce qu'il est peu ou très ou nombreux? Peu nombreux ou nombreux? Et ensuite on reprend. Uma ha'aretz asher yoshev ba, et quelle est la terre, la qualité de la terre sur laquelle il réside? Atovahi imra'a, est-ce que cette terre est bonne ou mauvaise? Ma he'arim asher yoshev bahena, et que sont les villes dans lesquelles il réside? Est-ce que ab machanaim im bemiftarim, et il faut savoir si les villes sont fortifiées ou non. Donc ça veut dire, est-ce que les gens ont confiance? Est-ce que ils se sont... Comment ils se situent par rapport à ça? Et encore une fois, Uma ha'aretz ha'shmenahi, vous regardez aussi la qualité de la terre, semble-t-il. Ici, c'est toujours marqué Haaretz, mais des fois, ça semblerait adéquat d'écrire Adama plutôt que Haaretz. Ma ha'aretz ha'shmenahi im raza. Vous regardez la terre, est-ce que la terre est grasse ou est-ce qu'elle est... Ou est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle est sèche? Enfin, rasée, ça veut dire petite, quoi. Ayesh ba'etz, est-ce qu'il y a des arbres? Im ain ou non? Vit chazaktem, ulkartem mipri haaretz. Alors, littéralement, c'est vit chazaktem, et vous fortifierez, semble-t-il, ici. Et... Ulkartem, et vous prendrez mipri haaretz, vous prendrez des fruits du pays. Vehayamim, les jours durant lesquels ça se passe, yemei bikurei anavim. C'est les jours des premiers raisins, en fait. Bikurim, c'est les premiers fruits. Anavim, les premiers raisins. C'est le début de la saison des raisins. Voilà, donc ça c'est la mission des explorateurs. Alors ils vont faire ce qu'il leur a été demandé. Et ils vont revenir de leur exploration, verset 25, Café, vous aurez, Vayoshuvu, et Tour à Haaretz, après 40 ans, ils ont fait 40 jours, pardon. Ils ont exploré pendant 40 jours, et ils sont allés chez Moshe Rabbeinu, et Aaron, et tout le peuple, et ils ont fait un rapport. Et ils leur ont montré les fruits de la terre en question. Des fruits gigantesques, on n'a jamais vu après des fruits pareils. Ils leur ont raconté: nous sommes venus dans le pays qu'on nous avait chargé d'espionner. Donc. Effectivement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Le miel, c'est du miel de date, évidemment. Et voici le fruit de cette terre, il est remontré. Donc c'était extraordinaire, quoi. Seulement, il dit, ouais, mais tout ça, c'est nul. Parce que le peuple en question, il est as, il est très fort, impudent, très fort. Les villes sont des villes fortifiées. On a vu là-bas même des géants. Amalek est dans ce pays, au sud. Et ils énoncent, il y a le Chéti, le Yévoussi, l'Aémori, qui sont du côté de la montagne, le Cananéen du côté de la mer, et du côté du Jourdain. Donc, en quelque sorte, ici, en deux psukim, ils ont clairement dit, c'est un pays fabuleux, mais ce n'est pas pour nous, hein. Alors, Vayahas Kalev et Aham El Moshe. Alors, Kalev, qui est un des explorateurs, et Kalev, c'est un explorateur qui a réussi à donner le change jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, les autres ne se sont jamais rendus compte que Kalev n'était pas de leur bord. Yoshua, ils l'ont tout de suite. Yoshua, c'est le chouchou de Moshe Rabbeinu, il a changé son nom avant. Yoshua, ils l'ont mis sur la touche. Il n'était pas au courant de tous leurs projets. Mais Kalev, il était avec eux. Enfin, il a fait comme s'il était avec eux. Et d'ailleurs, quand il a Vayahas Kalev, il a fait taire tout le monde. Tout le monde s'attendait à ce qu'il attaque Moshe. Et il a eu le silence parce que, comme il était avec eux, ils ont pensé qu'il allait abonder dans leur sens. Vayomer, et il a dit Alon Naale Vierash Nota, ki Yachol Nuchalla. On va monter dans ce pays et on va en hériter. C'est l'expression qui est toujours utilisée, Shon Yerusha. Nous pouvons le faire. Donc, il a dit en un mot, en quelque sorte, il a dit tout le contraire de ce qu'eux avaient dit, là. Et on entend bien le problème. C'est, eux, ils disent, on ne peut pas, et lui, il dit, on peut. On pourra le faire. Alors, les autres se sont attrapés, ils ont dit au contraire, il est plus fort que ce peuple, est plus fort que nous. Et vous connaissez là, on y reviendra, mais il y a une dracha qui Chazaku mimenu, je suis au pasuk lamed aleph, mimenu, même nun vav, ça se dit aussi mimeno. Il est plus fort que lui. Le lui en question, c'est un pronom pour désigner Hachem. Ce que nous lisons, nous, c'est Mimenu, il est plus fort que nous. Mais la graphie est exactement la même que celle qui se lit Mimeno. Et ils se sont mis à dire du mal de la terre, de ce pays qu'ils ont exploré, en disant, le pays dans lequel nous avons passé pour l'explorer, c'est un pays qui mange ses habitants. Et les gens que nous avons eus là-bas, c'est les gens anchemidot, ces gens qui ont des mesures extraordinaires. On a vu, c'est tous des baraques, quoi. C'est tous des. Ils peuvent tous jouer à NBA. On n'arrivera pas, c'est impossible. Et donc, ils ont fait pleurer tout le monde. Ils ont raconté qu'ils nous voyaient comme des sauterelles. Et nous aussi, on se sentait comme des sauterelles. Et tout le monde s'est mis à pleurer. Ils ont pleuré cette nuit. Et vous savez bien, cette nuit, c'est devenu une nuit de pleurs. Hachem a dit, vous pleurez pour rien. Vous allez pleurer. Toujours cette drôle d'idée que quand on a encore, j'ai souvent parlé de ça, je veux dire, cette idée qu'ont les parents en général, quand un enfant pleure et que on dit, tu sais même pas pourquoi tu pleures, et paf, maintenant il sait pourquoi il pleure maintenant. On est très avancé. Donc souvent, cette idée que, c'est vrai que c'est insupportable de voir quelqu'un pleurer pour des raisons qui nous paraissent à nos yeux, ne pas être de bonnes raisons, en tout cas. Souvent, on n'a même pas l'idée, et l'enfant, il ne dit pas pourquoi il pleure. Eux, ils ont pleuré, et cette nuit est devenue Tisha B'Av, la nuit de Tisha B'Av. Et donc, évidemment, ils se sont révoltés contre Moshe, Aaron. Évidemment, le refrain, c'est « Si seulement on était mort en en Eretz Israël, ou même dans le Midbar, plutôt que dans ce désert, plutôt que d'aller se faire tuer là-bas dans la conquête de Eretz Canaan. Ils disent, pourquoi est-ce qu'Hachem nous amène là-bas, dans ce pays, pour mourir par le glaive, et nos femmes et nos enfants vont être humiliés, ils vont être maltraités. Tov lanu shuv Mitzrayma. Il vaut mieux pour nous de faire un demi-tour et on retourne en Égypte. Ils ont dit, allez, on fait demi-tour et on retourne. À ce moment-là, Moshe et Aaron les ont suppliés, ils sont prosternés devant eux. Et Yoshua et Kolev vont déchirer leurs vêtements en signe de deuil. Et ils ont répété à tout le peuple, ce pays que, par lequel nous avons passé, pour l'explorer, Tova Haaretz Me'od Me'od. Ce pays est très très bon. Non seulement il est bon, mais il est très très bon. Alors, et puis ensuite, c'est si Hachem le veut nous le donner, il nous le donnera. Mais ils ont supplié les gens et leur disent, ne vous révoltez pas contre Hachem. Ne regardez pas ces gens-là, ce sera notre pain, nous on va complètement, on va en finir avec eux. Ne les craignez pas. Et on a voulu les lapider. Et la gloire d'Hachem s'est manifestée, ils se sont réfugiés en fait dans le Ohel Moed. Il y a eu la gloire d'Hachem qui était dans le Ohel Moed. Et à ce moment-là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, mais jusqu'à quand est-ce que ces gens-là, ce peuple-là, va inaatsuni, c'est-à-dire, ils vont... c'est ce qu'on dit sur quelqu'un qui fait une bracha sur des choses volées, par exemple. On dit, c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction d'Hachem, quoi, quasiment. C'est comme si on maudissait Hachem avec ça. Jusqu'à quand est-ce qu'ils ne me feront pas confiance? Après tous les signes que je leur ai donnés, je vais les frapper d'évers, de peste. Et il dit à ce moment-là, et je vais les déshériter. Ve'eseotra le goy gadol va'atsum mimenu. Je ferai de toi, Moshe, un peuple plus grand et plus puissant que ce peuple d'Israël. Alors, Moshe Rabbeinu s'est permis ici d'utiliser une stratégie, une façon de s'exprimer. Il dit, ouais. Et à ce moment-là, les Égyptiens, ils diront quoi? Ben, ils diront que tu as obligé ce peuple à sortir d'Égypte. Et ils diront, ce peuple qui est Aïn Be'aïn, t'as connu, etc. Et ils vont dire que, en fait, c'est parce que tu ne pouvais pas les faire entrer en Eretz Israël que tu t'es débrouillé pour les faire mourir. Et alors, Moshe Rabbeinu a dit donc, il y a un Chilul Hashem. L'argument important ici, c'est que si effectivement, ce qu'on peut comprendre, si les Bnei Israël effectivement méritent d'être détruits, mais il va y avoir un Chilul Hashem. Un Chilul Hashem dans le monde. C'est intéressant parce que c'est pas un Chilul Hashem au sens halakhique du terme, parce que pour un Chilul Hashem au sens halakhique, c'est devant des juifs, etc. Mais bon, le nom d'Hashem va être profané parmi les goyim. Alors il dit, attends, et maintenant au contraire, Yigdal na koach Hashem. Que la puissance d'Hachem soit agrandie, comme tu avais dit, Et il a sorti les midot, les midot, Erech Apaim, Rav Chesed, Nosi Avon Vafesha, Benake Loenake, Poked Avon Avot, Al Banim, Val Bene Banim, Al Shileshim, Val Ribeim, Slachna, La Avon Amazé, que Godel Chazé, ces psukim qu'on dit au début du Yom Kippour, Kacher Nasata, La Amazé, Mitzraim Vadena. Pardonne-leur comme tu leur as pardonné jusqu'à maintenant. Et Hachem a répondu, Salahti Kidvarer. J'ai pardonné comme tu l'as demandé. Mais la gloire d'Hachem va quand même se manifester. Tous les gens qui ont vu ma gloire, qui ont vu mes signes, tout ce que j'ai manifesté en Égypte et dans le désert, et qui me mettent ici sans arrêt à l'épreuve, déjà une dizaine de fois, qui ne m'ont pas écouté, ces gens-là, je jure que... Enfin, j'ai fait le serment qu'ils n'entreront pas en Eretz Israël, à l'exception de Caleb, lui qui avait effectivement un autre esprit. Alors, Yoshua aussi va rentrer, mais il n'est pas dit ici, Yoshua. Parce que Yoshua, il n'a pas fait œuvre particulière. Lui, il était sauvé d'emblée par le changement de nom de Moshe. Mais Kolev, il a fait tout le travail tout seul. Et on reprécise, « Ve'ak Amaleki, ve'ak Nani, Yoshev Behemek, Machar, Pnu, Su, Lachem, Amidbar, Der, Yamsuf. » Changement de direction, on repart dans le désert, c'est-à-dire on ne repart pas en direction d'Eretz Israël, ils sont condamnés à errer là pendant 38 ans de plus. C'est assez énorme. Mais après tout ça, dans le chapitre Tet Vav, d'aber Hashem el Moshe les mots, d'aber el Bnei Israël en entrant lehem, qui t'avou el Eretz Moshvotechem, asher ani noten lachem. Enfin, c'est quand même un passouk qui dit, quand vous arriverez en Eretz Israël, dans ce pays que je vous donne, donc, après avoir annoncé que toute la génération va mourir, on pourrait imaginer, bon, ben, ça va, après, il n'y aura plus rien. Non. La promesse de la terre, elle tient, et on parle de, à la fin du chapitre, donc, enfin, au chapitre 15, donc, on parle de ce qu'il faudra faire quand on arrivera en Eretz Israël. Donc, c'est un message en même temps qui dit on va arriver en Eretz Israël et voilà les on reprend, on repart dans les lois, les processus. Papara et aux autres qu'on mettra en œuvre en Eretz Israël. Alors, il y a un changement ici, c'est que à partir de ce moment-là, dans les parchiotes, on voit apparaître des choses qu'on n'a jamais vues. C'est quelque part, la relation entre le clan Israël et Moshe Rabbeinu est un peu cassée. Parce que les Bnei Israël ne vont pas pardonner à Moshe Rabbeinu de ne pas les avoir sauvés dans cette affaire aussi. Moshe Rabbeinu, ils ne savent pas qu'en réalité il l'a sauvé. Il s'agissait d'une destruction de tout le peuple et Moshe Rabbeinu a obtenu que seule la génération en question disparaisse, mais que les promesses restaient valables, etc. Mais eux, ils lui en ont voulu que finalement toutes ces générations allaient disparaître. Et dans les parchiotes qui viennent, après, on voit très bien, tout de suite après, il y a Korach, qui est vraiment la paracha impensable, tant qu'il n'y avait pas eu l'histoire des explorateurs, C'était impensable de se révolter comme ça contre Moshe Rabbeinu. De l'accuser de népotisme, de tout, enfin bref. Tout ce que Korach a manigancé contre Moshe Rabbeinu. Avant, ils sont, de temps en temps, ils se sont révoltés, mais ce n'était pas une attaque en règle contre Moshe Rabbeinu. Ensuite, il y a plusieurs épisodes où, effectivement, quelque chose de cette relation entre le clan Israël et Moshe Rabbeinu s'est cassé.
Mais il y a un Rashi, je crois, qui dit que Korach est arrivé avant.
Oui, bon, c'est possible. Dans la paracha, tel que c'est présenté ici, c'est présenté comme étant dans la foulée, quoi. Après qu'il y ait eu cette histoire de tout ce peuple qui va... Oui, c'est normal qu'il y ait le problème de Korach avant, puisque de toute manière, s'il était après, il faisait partie des gens qui auraient de toute manière dû disparaître dans les... avec les Meraglim, donc... Le Vaudor, c'était avant.
Ah bon.
Certains disent que le Vaudor, le pardon du Vaudor était un sursis en réalité. Et le sursis est tombé avec l'histoire des explorateurs.
Je comprends pas, parce que la semaine dernière de Vatecha, on a l'impression en tout cas que les Hébreux viennent de sortir.
Non, puisque Alotra est un Héroth, on est déjà après la construction du Mishkan, qui est après le Vaudor.
Mais qui est avant Matan Torah.
Non, non, après Matan.
Des erreurs comme ça, de demander de la viande et tout ça.
Je veux dire,
à ce moment-là, on pourrait comprendre s'ils sortent et à. Parce que je crois qu'à un moment donné, on dit. J'ai mal compris que ça faisait. Je crois. Ils mangeaient encore des matzot, donc ils n'avaient pas encore reçu la manne. Et donc c'est pour ça que je considérais que ça avait peut-être quelques semaines ou 15 jours.
Non, c'est bien après. C'est bien après. Bon. Alors on va reprendre le début de la paracha.
Est-ce qu'on peut comprendre les motivations de Hachem ?
Motivation de Hachem, non.
Merci, puisqu'on a dit que c'est lui qui décide d'envoyer les...
Alors ça, on va voir exactement si c'est vraiment lui qui a décidé, quoi. Non, pas vraiment une faute, mais bon, lui, il a entendu que c'était possible. Ils avaient déjà perdu. Enfin, c'est. Moshe Rabbeinu, par exemple, il ne donne pas de bracha à Shimon, à la tribu de Shimon. Il ne donne pas de territoire à Shimon, c'est Yehuda qui va lui donner son territoire. Pardon? Oui, c'est ça. On a l'impression que, bon, si Moshe n'est pas capable tout le temps de nous sauver, quoi qu'on fasse, alors ça ne vaut pas la peine. Bon, ils ont été mal habitués, quoi. Ils faisaient des bêtises et Moshe passait derrière et il nettoyait, quoi, à chaque fois. Donc, ils ont pensé que c'était un dû, quoi, qu'ils leur devaient, quoi, en quelque sorte, de les sauver systématiquement, quoi qu'ils fassent.
Mais en même temps, là, ils ont juste été condamnés à part notre envers Israël, comme Moshe d'ailleurs, et ils ont été condamnés à errer pendant 40 ans, mais ils n'ont pas été détruits tout de suite, même s'il y a une partie qui est mort.
Mais... Ils sont morts, ils sont morts progressivement, étalés sur ces 40 ans. À Tisha B'Av, il creusait une tombe et tout le monde se couchait dedans. Il y avait un quarantième, disons, qui ne se relevait pas. Alors Rachid dit, Lama nismecha parashat Meraglim le parashat Myriam. Pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé la parasha de Meraglim à celle de Myriam? Le fi chez l'apta liske diba, elle a donc été frappée parce qu'elle a dit du lashon hara contre son frère. Ureshaim alal ou raou velo lakhu musar. Et ces reshaim, c'est intéressant ici, ces reshaim là, ils ont vu ça, ils ont vu ce qui est arrivé à Myriam, et ils n'en ont pas tiré de leçon, ils n'ont pas pris de moussard, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font la même chose, ils reviennent et ils disent du mal d'Eretz Israël.
Est-ce que c'est la même chose de dire du mal d'Eretz Israël que d'une personne?
Ben, pour l'instant, le Midrash, il a l'air de les poser, de poser les choses. Ce qu'il y a, c'est que ce sont deux, au niveau des personnes et au niveau du territoire, au niveau du pays, c'est tous les deux des choix d'Hachem. Donc c'est du Lashon Hara indirect sur Hachem, en fait. En tout cas, on voit ici, Rabbi Yocham, il fait remarquer que en plus de la faute qu'ils ont faite, c'était en soi une faute, mais qu'est-ce que Rashi juge nécessaire, enfin, qu'est-ce que donne la juxtaposition? C'est intéressant parce que c'est une juxtaposition, alors que le début, donc la partie qui est vraiment juxtaposée à la paracha de Myriam, elle les présente comme des tzadikim, n'est-ce pas? Ce sont des chefs du peuple, ce sont tous des tzadikim. Au départ, ils sont présentés comme des tzadikim. Et néanmoins, il fait déjà le midrash fait déjà tout de suite la dracha sur ce qui va se passer à la fin. Ils vont dire dibata aretz, ils vont dire du mal du pays. Alors lui, il fait remarquer que ça fait partie des chidushim de la chokhmat ha-moussar. Bechol asher ata roé, bechol asher ata shomea. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, l'essentiel c'est quoi? Kabbalat alimudim. En tirer quelque chose. Tu vois, tu entends. En quoi est-ce que ça te concerne? À savoir, dans quel limoud, quelle leçon tu vas tirer de cela? D'avoir été présent à la sanction contre Myriam, tout le peuple l'a vu, puisque tout le monde a attendu Myriam, donc tout le monde était au courant. Ce qui est insupportable, c'est que ils n'ont pas tiré de leçon de ça. Il veut dire ici que c'est en fait l'imshoch kol advarim el atzmecha ata. La vi kol limud l'idemase. C'est-à-dire, en fait, c'est s'approprier en réalité ce qu'on voit et ce qu'on entend. Le faire sien. C'est devenu une partie de... Alors on pourrait dire, là, si on imagine un regard purement esthétique sur le monde, c'est-à-dire. C'est très beau. Alors on peut aussi se l'approprier, cette beauté. Alors ça me donne quelque chose d'avoir vu quelque chose de beau. Ça me transforme éventuellement, ça me donne une échelle du beau, mais en réalité, il y a une anecdote qu'on raconte de... c'est comme ça que j'ai lu, sur Ephraim Brisker. Il était un jour au bord de la mer, et il a vu le soleil se coucher sur Donc, là, on voyait très bien la descente du soleil dans la mer. Quoi. Et il était comme ça, parti dans... ailleurs, quoi. On lui a demandé, qu'est-ce qu'il y a, c'est tellement beau. Alors, lui, après, il me disait, si c'était Yom Kippour, là, on voit la capara qui descend. Au fur et à mesure, c'était Erev Yom Kippour, donc. Avec le coucher du soleil amène la capara dans le Paris-Saint. Donc, lui, il voyait dans ce coucher du soleil, pas seulement la beauté en soi, mais qu'il y a une réalité, un coucher de soleil, ça porte en soi l'accapara de Yom Kippour. Ce processus-là, il est riche. Alors, on pourrait dire il amène aussi le début du Shabbat, il amène le début des fêtes, etc. Mais ce qui touche encore plus l'homme, en fait, c'est qu'il apporte l'accapara. On est Erev Yom Kippour, on est là avec nos fautes. Je vous remercie, Mkhaper, les fautes. Au moment, avec ce coucher du soleil, il représente concrètement la trace de la capara dans le monde. Ça, c'était sa façon à lui de regarder un coucher de soleil. Je pense qu'il a aussi apprécié la beauté de la chose. Mais. Si on veut le rapprocher de soi, que ce soit quelque chose que tu ramènes à toi, c'est de reprendre une leçon. Là, il n'y avait pas de leçon à prendre du coucher du soleil en tant que tel. On voit que ce phénomène-là, où on voit lentement le soleil se coucher, et essayer de se représenter en quelque sorte que, au fur et à mesure que le soleil s'enfonçait dans la mer, en quelque sorte, ça représentait, si on avait été le soir de Kippour, ça représente la kapa, donc ça la représente tous les jours. Tous les jours, le coucher du soleil représente. Je ne veux pas dire que, après, il me pensait que la raison pour laquelle il y a un coucher de soleil, c'est pour représenter pour qu'on puisse se représenter la kapara, l'arrivée de l'accapara dans le monde. Mais bon, c'est un des éléments, une des leçons qu'on peut tirer. Alors, je ne sais pas si vous voulez voir ici cette progression, parce que, à la limite, même quand le soleil s'enfonce, il faut savoir, est-ce qu'on considère qu'il faut que le soleil entièrement soit sous l'horizon, est-ce que c'est... ça dépend où on est, est-ce que c'est le centre du soleil qui doit être sous l'horizon, ou la totalité, ou bien dès qu'il y a une partie du soleil qui est sous l'horizon, c'est déjà considéré comme soleil couché, s'il n'y a pas la totalité du soleil. Bon, tout ça, c'est des nefkaminot halachiques, c'est sûr qu'il faut savoir, halachiquement, ça prend du temps, quand même. Le disque solaire, c'est 4 minutes, je crois. L'ouverture, je crois que c'est 4 minutes. Et donc, il faut savoir, ça fait donc 2 minutes sur le rayon, donc il faut savoir si c'est l'âge qu'il y a ou pas. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant qui est né ici, on fait la mila aujourd'hui, on la fait demain, ou est-ce que, bon, je ne sais pas, une femme qui n'a pas fait sectara à ce moment-là, est-ce qu'elle peut compter un jour de plus dans l'ida ou pas. Enfin, il y a toutes sortes, il y a une infinité de situations qui résulte de la définition qu'on va donner du coucher du soleil lui-même. Est-ce que le soleil c'est entièrement sous l'horizon, ou le centre du soleil, ou la majorité du disque? En tout cas, il y a à prendre une leçon. Et voilà, ils ont vu l'histoire de Myriam, mais ils n'en ont pas tiré de leçon.
Et Myriam
ça, le clan d'Israël le sait aussi, qu'elle a été punie à cause de ça. Donc, quand Rachid, sur Rachid qui est très intéressant, qui dit à ce moment-là, ils ont vu le Lachon Hara des rêves, ils n'ont pas tiré le son, mais est-ce qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, si je vois quelqu'un qui est touché par une maladie, par la lèpre, comme il n'y a plus, on n'est pas à cette époque-là, et que je ne peux pas faire le lien, donc aujourd'hui, est-ce qu'on voit quand même, malgré le fait qu'il n'y a plus de... que ce n'est pas clair qu'aujourd'hui tout est masqué, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, encore, sur un chiffre, il reste actuel ?
Non, mais tu ne peux pas, parce que...
j'en tire une leçon.
Mais tu dois en tirer une leçon, mais tu ne peux pas tirer cette leçon-là. Parce que tu ne sais pas si la lèpre en question, elle vient de la Lachon Hara.
Aujourd'hui, on ne sait rien.
On ne sait pas. Alors, on prendra une leçon des choses qu'on sait, c'est tout. Quand tu vois quelque chose... Non, mais c'est pas seulement sous la forme d'un honnêche. Quand tu vois quelqu'un faire une bêtise et tu vois immédiatement la conséquence, tu dois tirer une leçon. Alors peut-être que, effectivement, il y a une situation comme celle-là. Si je voyais quelqu'un, encore faudrait savoir si c'est pas n'importe quelle lèpre. Hein, c'est
oui.
Tzorat, c'est pas la lèpre. On appelle ça la lèpre, mais.
L'affection.
Oui, alors, de toute manière, tant que le Cohen ne l'a pas dit que c'était Tzorat, ça ne l'est pas. Donc ça, on n'a pas. Non, on n'a pas ça. Mais on a. Tu vois bien quelqu'un qui a. Je ne sais pas, moi, tu vois quelqu'un conduire imprudemment et tu vois qu'il arrive à un accident, ben, tu dois tirer une leçon. Ça va être celle-là, tu dois la tirer tous. Si tu vois quelqu'un qui, dont tu sais qu'il a fumé comme un pompier et qu'ensuite, bon, tu dois tirer une leçon.
Donc quand c'est évident, on doit quand même...
Ben, quand nous, on ne peut pas tirer une leçon. Quelle leçon tu veux tirer si tu ne sais pas de quoi tu ne sais pas ce qui s'est passé.
Là, on n'a pas besoin de la Torah pour ça. Le bon sens suffit. C'est quand même relativement basique comme exemple.
Mais justement, ce qui n'est pas basique, c'est que je suis obligé de tirer une leçon. Ils sont des rechaïms à cause de ça.
Non, mais il est très fort, ce Rachid.
Parce qu'il y a des gens qui voient, qui... Non, ça ne me concerne pas.
Mais ça arrive tous les jours. On voit tout le temps des choses et on n'en tire pas toujours une leçon pour nous.
Oui, c'est une erreur.
Oui, mais à l'époque, c'était facile, parce qu'il y avait mon cher Abbé qui avait prié, parce que tout le monde savait qu'elle avait été punie à cause de ça, parce que Hachem s'était clairement prononcé. Mais aujourd'hui, ce Rachid, qu'est-ce qu'il nous dit à moi aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui...
Ce Rachid, il ne te dit rien à toi aujourd'hui, d'autre que quand tu vois quelque chose qui est interprétable, d'accord ? C'est-à-dire qu'il est clair, tu dois en tirer une leçon, c'est ça qu'il te dit. Et il dit, tu dois, c'est ça, c'est pas si évident, parce que vous voyez bien qu'il y a des tas de gens qui voient, selon ces choses qu'on a vues, qu'ils continuent de rouler comme des timbrés, ils continuent de fumer comme des pompiers, etc. Vous voyez bien que les gens ne tirent pas de leçon. Ici, le Limoud, il dit, tu es obligé de tirer une leçon. C'est, ne pas tirer de leçon, c'est être un rachat.
Ça veut dire qu'on doit tirer une leçon, pas que de ce qui nous arrive à nous, parce que des fois on vit à chaîne...
Non, justement, de ce que je vois.
De ce que je vois.
De ce que je vois, de ce que j'entends.
Donc je vois quelqu'un qui se casse la figure, ou s'il a bu, alors je vais faire un lien, je dois faire le lien entre le fait qu'il a bu et qu'il se casse la figure après.
Oui, la Gemara, elle a dit sur Nazir et Sota.
Oui, justement. Alors
oui, Sota, mais qu'il coula.
C'était à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas de Nazir, on n'a plus le Sota.
Non, mais personne ne t'empêche de faire le lien et de dire que quand tu vois quelqu'un qui se conduit mal et que tu vois bien que c'est sous l'emprise de l'alcool et que c'est la personne elle-même qui a décidé de prendre cet alcool, c'est pas quelqu'un qu'on a saoulé de force, d'accord ? Mais qu'on... Eh bien, tu peux dire, voilà.
Si on prend un exemple un peu plus complexe, peut-être, je ne sais pas, subtil, on fait le parallèle, par exemple, entre ces jeux vidéo qui sont de plus en plus agressifs, où il a l'objectif est de clairement tuer son prochain, et même des fois de pouvoir comme cela voir sur l'écran l'hémoglobine, etc. Et depuis une quinzaine d'années, ce qui se passe dans, ça commence aux États-Unis, mais ça vient maintenant aussi ici en Europe, c'est ces jeunes qui d'un seul coup pètent des fuses, comme on dit, et viennent avec une arme ou je ne sais quoi, et tirent sur leurs professeurs ou sur leurs élèves. Est-ce que justement là on peut faire un parallèle ? Est-ce que ici on peut faire cette démarche de nous montre ici
On peut la faire, il faudrait être bien sûr que c'est ça la cause, quoi.
Voilà. Donc c'est ça la difficulté, c'est comme disait monsieur, c'est
non, mais bien
quelque
sûr.
Chose de tranché, et des fois c'est difficile. Non. Au risque de se tromper.
Ouais. Mais franchement dit, ici, si on en tirait la conclusion qu'il faudrait peut-être un peu diminuer l'hémoglobine et peut-être les séances de trucs, ouais, et que c'est une erreur, ça vient pas de là, je sais pas, c'est pas très grave.
Oui.
C'est pas lui qui dit ça. C'est moi qui ai dit que au début, ce qui est juxtaposé, ouais. Ils sont pas encore de Rechaim, c'est la liste des Tzadikim. Et ouais, je vois que le Rashi, enfin, c'est un Midrash qui il va voir ce qu'ils vont devenir. Quoi. Il regarde toute la paracha, pas la juxtaposition, elle va pas seulement sur le début. Quoi. Alors, le grand problème, ouais, il vient, Shlach lecha, le da'atcha, c'est-à-dire, en fait, c'est ton da'at, à toi. Selon ton jugement, ani yashem, eini metzave lecha. Moi, je ne te l'ordonne pas. Im tirtze, shlach. Mais si tu veux, envoie. Alors que Rashi explique comment ça se passe. Le fils, c'est Baou Israël Ve'amrou. Les bénis Israël sont venus, ils ont dit Hachem, il veut qu'on entre dans ce pays. Mais nous, Nishlecha, Nashim, Lefanenu, on veut envoyer des espions. Comme c'est marqué, quand Moshe Rabbeinu le racontera dans Sefer Dvarim, cette histoire-là, il dira Batikrevun, Elai Kulchem, vous êtes approchés tous de moi. Donc ils sont venus chez Moshe, il dit on veut envoyer. Alors Moshe Rabbeinu, Nimlach Vashchina, comme toujours, Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem ce qu'il fallait faire. Qui a répondu, Ani Amar Tilaem, Shei Tova, Shenema Ale Etchem Meoni Mitzrayim. Alors Hachem répond, moi je leur ai dit que le pays était bon. Je leur ai dit, je vais vous faire monter de la pauvreté de l'Égypte. Donc, ouais, c'est au-dessus, c'est bon. Et malgré tout, ils viennent poser des questions, ils veulent envoyer des explorateurs. Chayehem, par leur vie, c'est une façon, c'est un serment qu'Hachem fait là. Sha'ani noten lahem makom lit'ot. Bedivrei amraglim, leman lo yoshua. Par leur vie, en quelque sorte. Je vais leur donner un lieu pour se tromper dans les paroles des amraglim, afin qu'ils n'en héritent pas de ce terrain, de cette terre. Ensuite, c'est marqué qu'il a envoyé Alpi Hachem. J'ai l'impression Alpi Hachem, ça veut dire sur l'ordre d'Hachem. Il vient de dire que ce n'est pas lui qui envoie. Alors, Rashi va dire là-dessus, Alpi Hachem, Birchuto. Alpi Hachem, ici, il faut l'affaiblir. Ce n'est pas sur son ordre, mais avec son accord. Il l'a permis. Shelo Ikev, Aliado. Kindimo Konsa. Enfin, c'est pire que ça. Il a dit, si tu veux envoyer, envoie.
Il a laissé faire.
Oui.
Là, vous disiez, c'est la paracha.
Oui, je lisais Rashi.
Alors là, vous, en fait, vous disiez que donc, ça serait une autorisation, mais en définitive, c'est Moshe qui a décidé de donner,
oui,
d'accorder c'est... cela.
Non, c'est.
C'est ça.
Non, c'est ici, mais c'est aussi répété dans. dans Dvarim, quand Moshe Rabbeinu raconte de nouveau cette histoire. Alors, il y a un mec d'Avar ici, il ramène Rashi évidemment. Alors il dit, Vadai lashon shlach lecha, enob mashma, ela kumo kach lecha, lech lecha, shehu mitzvah ke mashma. D'habitude, quand c'est lecha, shlach lecha, ou ani mitzvah lecha, kach lecha, lech lecha, c'est une mitzvah. C'est pas une. C'est, on va pas faire là-dessus, dans ces. Cette expression-là, on n'a pas fait la dracha de Datra. C'est toi qui décides. Quand Hachem donne un ordre à Moshe, il lui dit Kach lecha, ça veut dire je t'ordonne de prendre. Et le lecha ne veut pas du tout dire tu vas le prendre, et c'est uniquement dépendant de ta décision, et moi je suis neutre là-dedans. Alors pourquoi ici est-ce qu'on a interprété le shlach lecha, comme voulant dire le datra? Pourquoi on ne dit pas? Supposez qu'on. Vous en connaissez trop, vous savez que les meraglim, ce n'était pas bien. Mais quand vous lisez, si on lisait naïvement le verset, c'est marqué, Vaïdaber Hachem et Moshe Lemor, shlach lecha, Anashim, envoie, c'est un ordre. Alors, donc lui, c'était. Le Nesiv se demande. Mais où est-ce qu'on voit qu'il faut l'interpréter sous la forme le datra, c'est toi qui décides. Alors, il dit à Echech le Faresh Achi, l'obligation dans laquelle on est d'expliquer le lecha, ici, shlach lecha, le datra, elle vient de ce que Moshe Rabbeinu nous va dire dans le Sefer Dvarim. Qu'au début, ce sont les Bnei Israël qui ont demandé. Mais malgré tout, c'est quand même. Il dit, d'accord, puisque c'est les Bnei Israël qui ont demandé, et que Moshe n'aura pas simplement dit non, en vérité, Moshe, il aurait dû dire, quand ils sont venus, il aurait dû dire à Rabotai, Hachem a dit que c'était bon, on y va. Vous voulez envoyer des explorateurs? Réponse, non. Non, on n'en voit pas. Hein. L'explorateur, quand Hachem a dit que c'était bon. Donc on est obligé de dire ici que c'est le datra, parce que, quelque part, quand Moshe demande à Hachem, c'est comme s'il lui disait, moi, ça s'entend, quoi. J'entends ce qu'ils disent. Enfin, Yoshua va bien envoyer des explorateurs à Yericho. Personne ne dit qu'il a eu tort. Le problème de ces explorateurs, bon, c'est que ça n'a pas marché. Alors, le Rashi, ici, il nous dit, qu'Hachem dit, mais moi, je leur ai dit que c'était bon, et ils veulent quand même, ils veulent vérifier. Alors, ils vont pouvoir se tromper. Je vais leur donner une possibilité de se tromper.
La possibilité de se tromper, c'est le peuple qu'on a.
Oui, 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 oui.
C'est pas les meraglims.
Non, non, non. Dans les paroles des meraglims, il dit Rashi.
Le peuple va trouver dans les paroles des meraglims place pour se tromper. Quoi.
Voilà.
Et c'est terrible, parce que de ce que vous dites, on a l'impression que c'est Moshe qui est responsable de toute cette histoire.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit non, il leur a pas dit. Il leur a dit allez-y. Mais tu prends tes risques.
Hachem
a dit, je vais leur donner une occasion de se tromper. Et Moshe, il sait bien que qu'il y a un risque qu'il se trompe. On sait bien que les explorateurs peuvent éventuellement mal interpréter, ou que le peuple ne comprend pas ce que les explorateurs disent.
Les
explorateurs ont dit des choses, mais ils ont dit d'un côté c'est très bon, d'un autre côté on ne pourra pas y arriver. Et Caleb a dit, on pourra y arriver. Donc maintenant, ils avaient le choix. Seulement le choix qu'ils avaient, c'était comme... L'histoire, c'est comme ça, en fait. Je comprends bien. C'est que, même à supposer qu'ils aient eu un doute, ce qui n'était pas normal, puisque c'est Hachem qui leur a dit, même à supposer qu'ils aient eu un doute, leur problème, c'était, est-ce qu'on va douter, alors que Hachem nous dit que c'est bon. Et maintenant, après les explorateurs, quelle est la situation? Eh bien, il y a 10 des 12 explorateurs qui sont 10 des 12 princes du clan Israël qui disent qu'il ne faut pas y aller. Et il y en a deux, en réalité un seul, ils ont deux, faire bonne mesure, deux qui disent qu'il faut y aller. Il n'y a pas photo. On va suivre les 10. Donc en réalité, ce qui s'est passé, c'est que, au fond, d'avoir voulu envoyer les explorateurs, ils ont simplement rendu, ils se sont rendu la tâche plus difficile. Parce que c'est sûr qu'il y avait les deux explorateurs qui disaient qu'il faut y aller, mais il y avait aussi Hachem qui avait dit que c'était bien. Donc, d'un côté, j'ai Hachem plus deux explorateurs, et de l'autre côté, j'ai 10 explorateurs qui ont été nommés par Hachem. C'est pas des types qui se sont poussés du coude pour arriver là-bas. C'est la crème du clan d'Israël qui est allée en exploration. Et ces gens-là, ils reviennent et ils disent, on n'y arrivera pas. Mais justement, ça, c'est pas objectif. Ça, c'est une évaluation. Dire la terre est bonne, les murailles sont hautes, les gens sont grands, etc. Ok. Mais ensuite, on y arrive ou on n'y arrivera pas. Comme si, jusqu'à présent, ce qu'ils avaient réussi à faire, ils l'avaient fait par eux-mêmes.
Mais alors, c'est incompréhensible, parce que, comme vous dites, les explorateurs, ils auraient dû tout de suite dire, mais de toute façon, si Hachem a dit qu'on n'y arrivera pas, on n'y arrivera
pas. Et donc, il n'y avait pas besoin d'explorateurs pour ça. Mais
si, pour dire quand même que c'était grand, c'était machin, c'était bien, la terre était bonne, il y avait quand même du lait, du miel, etc.
Mais Hachem l'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Si Hachem te dit que la terre elle est bonne, et, etc., et tu vas venir derrière, oui, c'est juste.
C'est incompréhensible.
C'est
complètement incompréhensible.
C'est vraiment incompréhensible.
Mais qu'est-ce qui est incompréhensible? Parce que Moshe a dit qu'il
fallait. Ce qui est incompréhensible, c'est que Moshe est accepté dans ces cas-là.
Mais parce que. Parce qu'à la limite.
Il est rentré dans une histoire de fou, là.
Non, parce qu'à la limite, Moshe leur a dit. Vous allez voir, et puis ensuite vous aurez le problème de savoir est-ce que je suis Hachem, même quand moi j'y comprends rien, quand moi je comprends qu'il ne faudrait pas faire. Mais c'est Hachem qui a dit que c'était bon. Donc c'est. Non, mais cette chose-là, si vous voulez. Les Bnei Israël sont dans cette situation, un peu dans la situation où sont les Umot HaOlam qui refusent la Torah, parce qu'Hachem leur a dit qu'il y avait dans la Torah les choses que eux ne. Sur les choses sur lesquelles ils vivent et que la Torah leur interdit. Ils vivent de rapine, on leur dit t'as pas le droit de voler. Ils vivent en tuant les gens, t'as pas le droit de tuer. Ça, c'est ce qu'Hachem leur a dit. Mais je vous ai déjà expliqué pourquoi il leur a dit ça. Bon, c'est une séance de rattrapage. Parce que quand ils ont demandé qu'est-ce qu'il y avait dans la Torah, vous souvenez, tout le monde se souvient, je répète rapidement, quand ils demandent qu'est-ce qu'il y a dans la Torah, ils ont déjà perdu. Parce que même si tu dis oui, alors tu as jugé la Torah adéquate. Donc tu t'es placé au-dessus de la Torah. C'est fini, c'est plus la Torah. Donc Hachem leur a donné une séance de rattrapage. Il leur a dit, ce qu'il y a dans la Torah, c'est inacceptable pour vous. Alors on doit se demander, mais quoi, ça ne va pas, non? Il nous propose des choses dont il nous dit lui-même que c'est inacceptable pour nous. Alors il faut comprendre que s'il me le demande, s'il me le dit, c'est parce que c'est le Créateur, et que la chose n'est pas jugeable en soi, elle est acceptée, elle doit être acceptée par la réflexion sur mais de qui est-ce que cette histoire vient? Qui me fait la proposition? Qui est derrière la proposition?
Donc la question revient quand même. Pourquoi dans ces cas-là, Moshe a accepté ce défaut d'émouna du peuple? Est-ce qu'il a bien perçu ça dans cette
demande? Mais oui, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut peut-être mettre les gens à l'épreuve pour voir si effectivement ils vont se remuer. Les Israélites sont pris en charge, ils prennent en charge Moshe, ils les portent, ils les numériques d'un mot, en développant les lettres. C'est-à-dire le Aleph, au lieu de le compter pour 1, on le compte comme Aleph, Lamed, P. C'est-à-dire 1 plus 30 plus 80. Et si on fait ça, Aleph, Lamed, P, Daled, Lamed, Tav, Nun, Vav, Nun, et Yud, Vav, Daled, pour faire les 4 lettres, etc., ça a la valeur de 671. Et si on enlève la partie visible, les 65 de ce 675, il reste route. Il reste la valeur 606, c'est-à-dire les lettres qui forment route. C'est-à-dire que la partie cachée du nom divin, Adnout, bon, c'est la partie complètement développée, moins la partie visible, Aleph, Daled, Nun, Yud, 65, c'est la gematria de route. C'est-à-dire, quand on partage le nom divin en une partie cachée et une partie visible, elle correspond à la partie cachée. Route correspond à la partie cachée.
65, c'est la partie visible.
Oui, c'est quand vous lisez. Dans le Sidour, quand on écrit Alev Daled Nunyud, c'est la partie qu'on voit. Mais la partie qu'on ne voit pas, c'est le. Dans le Alev, c'est le Lamed Pe, dans le Daled, c'est le Lamed Tav, etc. On sait que tous les Guérim sont en fait les descendants d'Abraham Avinu. C'est pour ça que tous les Guérim s'appellent d'après Abraham Avinu. Et Abraham Avinu lui-même, il s'appelle Abraham sur Av Hamon Goïm, père d'une multitude de peuples. Donc il est évidemment le père de tous ceux qui viennent se mettre, comme on dit, Tahat Kanfe Ashrina, sous les ailes de la Shrina. Et il est le premier qui a nommé Hachem Adon. Le premier qui a nommé Akadosh Baruch Hu avec ce terme de Adon. Il a inventé en quelque sorte ce nom de Adon. Et on peut dire, lui il a inventé le nom visible de Adon. Il a publié Hachem. Et elle, Ruth, elle a inventé la partie cachée de la Hadnout. Quelque part, elle est l'associée d'Abraham, Abraham dans la partie visible, et elle dans la partie cachée. Si on regarde un peu plus profondément, toujours un peu à notre niveau. Si on regarde qu'effectivement la gloire divine qui est cachée dans ce monde, parce que la lumière d'Hachem ne se manifeste pas dans toute sa gloire, alors cette partie cachée, cette lumière cachée dans le monde, elle a été dévoilée par Ruth. Parce qu'elle a trouvé le moyen de dévoiler la couronne de la royauté, en quelque sorte. même lorsque la gloire divine est totalement cachée, c'est-à-dire à partir de Moab, à partir de l'endroit où la gloire divine est le plus cachée, elle l'a extraite, elle l'a inventée, si on veut parler comme ça. Le Gaon, à plusieurs endroits, il fait remarquer que le mot Moav, sa gématria, c'est 49. Puisqu'on sait que les portiques de la Touma sont au nombre de 49. Le Chita du Gaon, c'est qu'il n'y a pas de 50e portique de Touma. Et le Gaon dit que la racine du mal dans le monde, elle vient de Shetei Benot Lot, des deux filles de Lot, qui correspondent au Yetzer Hara de la Tahava, de l'envie, et au Yetzer Hara du Kaas, de la colère et de la Avodah Zara. Quoi ? La colère et la Avodah Zara. Alors, puisque la royauté de David, comme on l'a dit, elle doit retourner la situation et récupérer toute la Touma du monde par le biais du Mashiach, n'est-ce pas ? On va aller chercher toute la Touma du monde, c'est-à-dire les endroits les plus paumés où personne n'a d'idée de ce que représente, enfin, de l'existence d'Hachem, quasiment. Il faut bien que les 49 portiques, visages d'impureté, de Touma, soient transformés en 49 visages de Tahara, de pureté. Puisque ça n'est que comme ça que la royauté va se dévoiler à travers le Mashiach. C'est ce qu'on a expliqué au début. Et c'est ce que Chazal rapporte dans la Gemara, dans Bava Kamma, que HaKadosh Baruch Hu a dit « Shte predot tovot yeshli lotzi mehem ». À quoi ils servent ces deux peuples ? S'ils représentent la Touma de la Touma, alors qu'on les fasse disparaître, c'est terminé. Hachem dit « J'ai deux pierres précieuses, en quelque sorte, à récupérer dans ce peuple, dans ces peuples. J'ai besoin, je veux récupérer Ruth de Moab et Naama d'Amon, de l'autre peuple. Naama qui va être donc la mère de Rochovam, la femme de Shlomo qui aura comme enfant celui qui sera le successeur de Shlomo Amelech, Rochovam. Et on sait que le Mashiach, il vient de David par Shlomo. David a eu beaucoup d'enfants. Mais le Mashiach, ce que Hachem a promis à David, c'est que le Mashiach passera par lui et son fils Shlomo. Donc on voit que Ruth, elle a une valeur tout à fait particulière, parce qu'elle va jouer son rôle, en quelque sorte, en ce que, grâce à elle, il y a un pasouk du Navi Tzfania qui dit « Ki az, alors, au temps messianique, afochel amim, safa brura, il y aura un langage tout à fait clair, likro kulam beshem Hashem, où tout le monde proclamera le nom d'Hachem et tout le monde le servira tous en même temps. On peut essayer d'expliquer un peu mieux cette chose. J'ai un des grands élèves du Gaon, il explique que Ruth et David La gématria de Ruth et David, ensemble, ça fait, c'est la gématria de Keter, de la couronne. D'après ça, ça veut dire quoi? Ces gématriotes, elles sont simplement dépositaires de quelque chose. C'est pas parce qu'il y a une gématria comme ça qu'on va dire les choses. C'est au contraire, ces gématriotes-là nous indiquent quelque chose qui est fondamental, mais qui existe indépendamment de la gématria. Vous vous souvenez, probablement, de ce que, lorsque Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah au ciel, quand il est arrivé, il a vu qu'Hachem était en train d'attacher des petites couronnes aux lettres. Sur certaines lettres de Sefer Torah, il y a des petites couronnes. La couronne en question, c'est trois petits traits, comme ça, comme un chine. Ça s'appelle des couronnes, des ktarim, ça s'appelle.
Il attachait des couronnes à quoi ?
Aux lettres de la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est que ces couronnes ? Ces couronnes, c'est donc, on attache aux lettres qui sont écrites, qui sont dévoilées, on leur associe, on leur attache une part cachée. Ces lettres, ces couronnes sont toutes les mêmes, et selon qu'elles sont sur cette lettre ou sur une autre, elles ont une autre valeur. Elles veulent toujours dire qu'il y a quelque chose de plus dans la lettre en question que ce que on voit. On a en quelque sorte ajouté à cette lettre une partie cachée, en quelque sorte. Ces couronnes, donc, qui sont la partie cachée, en fait, des lettres, elles ont le même nom, on les appelle couronne des lettres, qui est très otiote. Alors, on a expliqué que la couronne de la royauté, donc la royauté dans toute sa splendeur, ne sera dévoilée que quand toute la partie cachée sera elle aussi dévoilée. Si on n'a pas tout dévoilé, alors il manque quelque chose au dévoilement de la royauté, comme on avait vu. Alors, la couronne de la royauté d'Hachem, elle est dévoilée au moment où Hachem s'est dévoilé le plus fortement, c'est-à-dire au moment d'Aseret HaDibrot. Quand Hachem s'est dévoilé au Sinaï, pendant les commandements, c'est le dévoilement maximum. Dans les Aseret HaDibrot, il y a Tav Reish Kaf, justement. Ça veut dire, il y a Keter Otiot. Les lettres, les 10 commandements, ont la même valeur numérique que la couronne, c'est-à-dire 620. C'est les 613 mitzvot, plus 7 mitzvot que les Rabbanan ont inventées, comme Hanouka, Purim, et Tzedaim. Dans la Gemara, on nous dit que à Atzeret, Atzeret c'est le nom que Chazal donne à Shavuot. À Shavuot, les Bnei Israël ont retrouvé le niveau d'Adam Arishon avant sa faute. Donc, à la limite, toute la trace de l'histoire avec le Nahash, avec le serpent et Chava, etc., tout ça, ça a disparu. Et ça a disparu parce qu'ils ont fait tout ce travail de la Sfirata Omer, ce travail de, qui s'est fait lors du décompte du temps, des jours passés donc, qui mènent de Pessah à Shavuot. Bon, ça c'est aujourd'hui qu'elles ne sont pas obligées de le faire, parce que c'est une mitzvah d'assez qui est liée au temps. Et les femmes sont dispensées de toutes les mitzvahs d'assez. Elles ont le droit de le faire, mais elles n'y sont pas astreintes, comme toujours. C'est une question que vous pouvez poser sur toutes les mitzvahs dont les femmes sont dispensées. Ça veut dire que probablement la condition féminine permet, enfin, comme ça que je me représente la chose, que les expériences de la condition féminine sont des expériences qui sont telles qu'elles permettent par un autre chemin d'accéder au même niveau, et que pour ça les hommes, eux, ils ont besoin de quelque sorte de mitzvot qui marque le temps. Comme les hommes n'ont pas de temps marqué dans leur corps, alors ils ont besoin de marquer le temps extérieurement par des événements, par des temps bien précis. Je crois que c'est toutes les situations dans lesquelles quelqu'un est dispensé de faire une mitzvah. Bon, je vous avais déjà parlé de ça lorsqu'on avait parlé un peu de la mitzvah de Aliyah la Regel, c'est-à-dire de la mitzvah où on monte à Yerushalayim pour aller voir et être vu par Hachem. Et dans cette mitzvah-là, les gens qui ont de la difficulté à marcher, les gens qui ont toutes sortes de défauts physiques qui font qu'ils ne peuvent pas monter, dit Yerushalayim, ils sont aussi dispensés. Mais si on dit que c'est fondamental, pourquoi on dit qu'ils sont dispensés? Il faut les aider à monter, ou qu'on les monte artificiellement, qu'on les monte sur des chariots, mais qu'on les monte. C'est donc que, probablement, le handicap, qui peut très bien être simplement la vieillesse, c'est des gens qui, toutes les années, ils sont montés, mais à un moment, ils ne peuvent plus marcher, donc ils ne monteront plus. Peut-être que, justement, ces expériences-là, liées aux différents handicaps, quand on intériorise ce que représente cet handicap, etc., peut-être qu'on arrive au même résultat que celui auquel on arrive quelqu'un qui n'a pas de handicap et qui est obligé, pour arriver à ce résultat-là, il faut qu'il fasse un travail intérieur et extérieur, d'aller voir et voir, il n'y a rien à voir. On dit à voir, mais il n'y a rien à voir. Voir et être vu par Hachem. C'est-à-dire prendre conscience que je suis vu par Hachem. C'est aussi tout un travail. Peut-être que... Il m'a semblé là-bas que je devais expliquer que ce n'est pas du tout... Ils sont dispensés, point barre, et on passe au point suivant de l'ordre du jour. C'est impensable de penser que... Enfin, que des gens soient dispensés de quelque chose qui est fondamental. Il y a une mitzvah, les mitzvot sont fondamentales. Comment quelqu'un peut être dispensé de faire la mitzvah? C'est qu'il peut arriver au même résultat autrement, parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu arriveras à ce niveau-là, et là, ça veut dire quoi? Le prophète Sraïm, à la fin de sa vie, on lui a dit, c'est terminé, hein. Tu ne peux plus arriver. Ça n'a pas de sens. Les enfants, ils ne comptent pas, parce que les enfants, ils sont mineurs. Dès que l'enfant il est majeur, il est ou bien une femme ou un homme. S'il est un homme, il a les mitzvot. Si elle est une femme, les enfants n'ont pas de mitzvot en tant que tels. Ce que nous faisons avec les enfants, c'est pour les entraîner pour que quand ils arrivent à la bar ou à la bat mitzvah, ils ne leur tombent pas sur la tête 613 mitzvot tout à coup en un jour, alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est.
On considère que cet apprentissage.
C'est un apprentissage.
Est acquis parce qu'à un moment, la femme n'a plus d'enfant, elle n'a plus de compte physiologique.
Bon, mais je pense qu'elle est suffisamment marquée et voilà, pour que.
Comme...
Oui. On peut dire la même chose sur le Zaken, sur le vieillard qui ne peut plus monter. Il y a quoi, 50 ans, il est monté, maintenant il ne peut plus monter. Alors quoi, il serait dispensé? Non. Lui, il vit avec ou bien ses acquis antérieurs, bon, ou bien le fait qu'il a compris ce que ça voulait dire qu'être, que de devenir vieux, etc. Donc, d'après ça, avec ce qu'on vient de mettre bout à bout, c'est-à-dire David et Ruth ensemble, ça fait la même gématria, que la même valeur numérique que Keter, et ce qui est aussi le nombre de l'aide du dévoilement maximum d'Hachem dans le monde au moment de la Aseret HaDibrot. Ça veut dire que Ruth et David ensemble, il y a en eux la racine du mal qu'on trouvait dans Sdé Moav. Et quand on compte tous les 49 de Moab, tous les jours de Sfirat HaOmer, toute cette négativité, en quelque sorte, on arrive à la...